Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Priorité Santé. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. La Coupe du Monde a commencé en Russie, ça ne nous a pas échappé. Et voilà, et bientôt il y aura le Tour de France aussi. Donc en ce moment, les joueurs sont tous sur le terrain. Ils jouent devant des milliards de téléspectateurs dans le monde. Ils donnent du spectacle et de l'émotion. Mais derrière la machine à rêve, il y a la machine à fric. Beaucoup d'enjeux financiers et une question reste en suspens. Sont-ils chargés ? Côté cyclisme, on se souvient de Lance Armstrong, l'Américain, un septuple vainqueur, déchu du Tour de France. Il avait lancé le jour du départ, écoutez bien, impossible de gagner sans dopage. Et les sportifs amateurs sont-ils aussi concernés ? Donc aujourd'hui, des tas de questions, beaucoup, beaucoup autour du dopage. À partir de quand parle-t-on de dopage ? Quelles sont les substances utilisées ? Comment expliquer l'addiction aux produits dopants ? Comment s'en détacher aussi et améliorer ses performances sportives sans tricher ? Pour en parler aujourd'hui, en studio, il y a le professeur Gérardine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, biologiste des hôpitaux et professeur associé en biotechnologie à l'École centrale de Paris. Vous êtes donc le spécialiste du dopage. Vous êtes en forme, je vous vois là, vous carburez au café.
Oui, c'est ça.
Vous dopez, c'est un dopant le café ?
La caféine a été considérée comme un produit dopant jusqu'en 2004, justement, par l'agence antidopage et elle a été retirée. Mais effectivement, la caféine a un effet tout à fait améliorateur de la performance sportive et paradoxalement dans les disciplines d'endurance et pas uniquement dans la stimulation cérébrale.
Donc là, on est ensemble pendant 50 minutes à peu près. Vous allez tenir le coup jusqu'à la
voilà,
fin de l'émission.
Voilà, a priori, il n'y a pas de souci.
Et avec nous au téléphone, le docteur Laurent Usan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue du sport, directeur du diplôme universitaire de cardiologie de sport et vous êtes en ce moment au sein de l'Institut Cœur Effort Santé à Paris où vous exercez. Merci d'être avec nous depuis le téléphone. Vous êtes consultant pour de nombreux clubs de rugby, handball et foot. Le foot,
exactement.
Vos impressions là depuis le début de la Coupe du Monde ?
Bon, disons que, comme toujours dans les démarrages, c'est rarement les équipes qui sont en forme tout de suite qui finissent par aller au bout. Donc, ça laisse de l'espoir pour l'équipe de France.
Merci. Vous restez donc avec nous. On attend vos questions au 33 1 84 22 75 75 et sur nos pages Facebook pour témoigner sur ce sujet. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste. Il sera question de balance énergétique.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Gérardine, docteur Laurent Usan, vous êtes donc médecin. Vous regardez la Coupe du Monde de foot, j'imagine, un peu comme beaucoup. Bientôt, il y aura le Tour de France. Qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous voyez ces joueurs sur le terrain ou ces dossards qui courent tête baissée, professeur Gérardine ?
C'est surtout des athlètes magnifiques. Ce sont les techniciens hors pair. Et puis, c'est un jeu collectif, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut absolument intégrer cela. Et on a un exemple avec le premier match de l'équipe de France où et une certaine capacité de ces joueurs, mais ils ont peut-être pas trop joué ensemble. Donc, en fait, c'est un peu le problème.
Et quelle est votre réaction, par exemple, à vous, docteur Laurent Usan, quand Lance Armstrong, par exemple, avait dit « on ne peut pas gagner le Tour de France sans dopage hein. »
Bah, disons que c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses dont on est... qu'il faut admettre à un certain moment. Il faut savoir que, quand même, les époques Armstrong et un petit peu Armstrong, on avait quand même une culture du dopage qui était extrêmement présente. Et effectivement... pour être dans les tout meilleurs à l'époque sur le cyclisme, on pouvait tout à fait imaginer qu'il fallait en passer par là. Après, la problématique, c'est la problématique des médecins et au niveau légal, de pouvoir dépister, détecter ce genre de choses et ce genre de tricherie.
Est-ce que là, pendant la Coupe du Monde, on le sait, tous les joueurs, de toute façon, prennent des antidouleurs, des anti-inflammatoires. J'ai lu dans un article, quand ils arrivent dans le vestiaire, ils lâchent leurs lacets et ils prennent des anti-inflammatoires. Est-ce que ça, c'est considéré comment pour vous ?
Alors,
Allez-y.
Donc, a priori, les anti-inflammatoires, on reste quand même sur du traitement fonctionnel. C'est pas considéré comme des produits dopants. C'est des produits qui peuvent avoir des conséquences sur le plan de la santé, il faut le savoir, notamment au niveau cardiologique. Mais on est sur des médicaments qui vont soulager certaines gènes, certaines douleurs. Donc, chez certains sportifs, on peut tout à fait tolérer et accepter ce genre de prise en charge. Après, il faut être prudent sur l'utilisation excessive de ces médicaments qui peuvent avoir des vraies conséquences sur la tension artérielle ou sur des problèmes d'hydratation, notamment chez les sportifs et notamment chez les sportifs amateurs, parce que finalement, c'est de l'automédication chez les amateurs quand on utilise ce genre de produit.
Alors, quels sont les sports les plus touchés, d'après vous, professeur Gérardine ? L'athlétisme, le foot, le rugby, le vélo ?
Tous les sports sont concernés. Hein. Si vous voulez, 80% des disciplines, on va dire économiques, du point de vue du spectacle, sont des disciplines où il faut de l'endurance et de la résistance, c'est-à-dire la puissance musculaire et de l'endurance, en particulier les sports collectifs comme le football et le rugby. Et donc, en fait, tous les sports sont concernés. Il est évident que, par exemple, sur une Coupe du Monde comme ça, les produits anciens ne seront pas retrouvés, parce qu'ils sont très faciles à retrouver dans les contrôles antidopage. Aujourd'hui, on est plutôt dans des dérapages qui se situent à la frontière de la préparation. Et ce que vient de dire Laurent est tout à fait clair. Si vous voulez, on est confronté à une médicalisation parfois presque outrancière de gens qui sont quand même pas malades, qui sont simplement des sportifs de haut niveau.
Mmh. Mais c'est culture quand même, il y a une culture.
C'est-à-dire que ça peut paraître surprenant que pour faire du sport alors qu'on est censé être en pleine forme, on soit obligé de consommer beaucoup de médicaments. Mmh. Et puis vous avez une certaine inégalité dans la fréquence des contrôles. On sait à peu près que les cyclistes sont quand même contrôlés 5 à 10 fois plus depuis ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années que des sportifs internationaux comme le football ou le rugby.
Alors justement, est-ce que les joueurs de foot en ce moment pendant le mondial sont contrôlés? Il y a Gando de Dakar qui nous dit: dans le foot, je pense que la FIFA doit prendre des mesures pour contrôler les joueurs. Il pense surtout à Ronaldo et Diego Costa. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Usan?
Non, très clairement, pendant les compétitions, il y a des contrôles antidopage quasiment systématiques. Dès qu'on arrive dans les tours, on va dire, en plus, un temps, à partir des 8e quart et demi, je crois qu'il y a un tirage systématique au sort des joueurs qui vont passer les contrôles antidopage. Donc non, il y a un contrôle quand même très clair de ce genre de choses. Après, les problématiques sont que habituellement les sportifs seront dopés en dehors des compétitions, pendant les entraînements. Et donc c'est là où, effectivement, où il faut aller dépister et chercher ce genre de problématiques. Pendant les compétitions, souvent on a des contrôles qui sont plutôt négatifs.
Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on est rentré un peu dans ce dopage régulier? Est-ce que c'est la faute à qui, je dirais? C'est la faute aux spectateurs, aux sponsors, aux journalistes, docteur Rodin?
Non, c'est parce que le sport, aujourd'hui, dans le haut niveau, on n'est plus dans le sport, on est dans l'économie du sport. L'économie du sport, les chiffres 2014, c'est 650 milliards de dollars d'échanges. Quand on prend l'ensemble des opérateurs, c'est-à-dire les médias, les droits de télévision, les équipementiers, les organisateurs, les produits dérivés, enfin bref, ça fait beaucoup beaucoup d'argent. Et la mine de l'économie du sport, c'est la performance sportive, et l'origine de la performance sportive, c'est le corps de l'athlète. Et le corps de l'athlète, il n'échappe pas à l'évolution de l'espèce humaine.
Donc, pour qu'il y ait du spectacle, pour qu'il y ait toujours plus haut, plus beau, plus fort.
Donc, on va à la limite.
On va à la limite.
Et on va à la limite, même chez le sportif amateur. Hein. Vous prenez les découvertes récentes, même sans parler de dopage médicamenteux, on prend l'exemple du vélo à moteur, entre guillemets. Il y a eu des contrôles dans les courses amateurs et on a eu quelques sportifs qui se sont fait attraper sur des histoires comme ça. Alors qu'il n'y a pas d'argent à gagner, alors qu'il n'y a pas de... oui, on va dire si peu d'argent à gagner dans ce genre de course. Et donc on a vraiment quand même un concept un peu général qui se diffuse de plus en plus, même sur les amateurs.
C'est-à-dire lié au fait de vouloir se dépasser, on est dans cette culture-là aussi du dépassement?
On est dans cette culture de, on va essayer de faire toujours mieux, toujours plus et toujours au-dessus.
Alors, on va, avant d'écouter un son, justement, d'un marathonien, non, on va l'écouter tout de suite, hein, ça va bien aller avec ce que vous dites. Il y a Guillaume Antonietti qui, en 2015, lui, il a participé à une enquête de l'émission Stade 2 de la chaîne de télévision France 2, pour laquelle, avec 7 autres sportifs, justement, il a accepté de se doper pendant un mois, dans le but de mesurer les limites de la lutte contre le dopage en France. Donc, il détaille cette expérience et ses effets au micro de Raphaël Constant.
En fait, il s'agissait d'une étude sur le dopage qui consistait non pas à montrer les effets du dopage, mais de montrer qu'il était possible de recourir à des substances dopantes tout en passant sous les radars des contrôles antidopage. Alors en fait, ça a duré 4 ou 5 semaines. On a commencé par un prélèvement sanguin pour se faire une autotransfusion à la fin du protocole. On a commencé comme ça. Ensuite, on a eu un programme de suivi d'EPO, d'hormones de croissance et des corticoïdes à l'approche des tests sportifs à la fin du protocole. L'objectif était de réaliser une batterie de tests sportifs en salle avant la série de dopage et exactement la même série de tests sportifs un mois après, une fois qu'on était passé à travers le protocole, pour vérifier l'impact sur la performance, bien entendu.
Et alors du coup, quel était l'impact de ces substances, de ce dopage, sur vous, votre corps et vos résultats sportifs ?
Dans un premier temps, j'ai cru que c'était psychologique, parce que au bout de 2-3 semaines, je sentais que les piqûres d'EPO me mettaient dans un état de tension. J'étais beaucoup plus excité. Même dans ma vie professionnelle, je m'emportais plus, je m'énervais plus facilement. Je dormais 4 heures par nuit, quoi. Et à l'entraînement, du coup, je passais plus de temps. J'étais moins fatigué, moins vite fatigué. Donc, j'allais pas plus vite. Je pouvais passer d'une séance que je pouvais réaliser de 15 à 20 km en temps habituel, et je pouvais pousser 5 ou 10 km de plus à la même allure. Alors qu'avant, je m'arrêtais plus facilement. Donc, ce qui m'a d'abord frappé, c'est que ça repoussait le seuil de la fatigue, plutôt que d'améliorer la vitesse intrinsèque. Ça, c'était très surprenant. Et pourtant, les doses étaient vraiment des micro-doses.
Et est-ce que vous avez vu des transformations physiques sur votre corps ?
Eh bien, en fait, pas plus que quand je m'entraîne beaucoup, en fait. Mais les substances m'autorisaient à pousser un peu mes séances, en nombre et en longueur, et donc je m'affûtais plus. Et effectivement, moi, j'ai gagné 25 secondes sur un 3000. C'est en 3000 mètres sur piste en courant, ce qui est extraordinaire comme progrès, alors que je venais pas de me mettre à la course, hein, j'étais quand même très entraîné. Pour réussir à obtenir cette amélioration, je pense qu'il m'aurait fallu évidemment un peu plus de temps sans substance, et que ces substances-là m'ont aidé simplement à maintenir la douleur un peu plus. Avec les produits que j'avais dans le corps, je sentais que l'envie était là, le même sentiment de fatigue était là, mais je pouvais continuer sans devoir absolument me ralentir. C'est très étonnant comme sensation.
Est-ce que vous avez senti se développer une sorte d'addiction à ces produits au fur et à mesure de vos entraînements ?
Alors certainement pas. Pour le coup, c'est une vraie question qu'on m'a souvent posée. Je n'aurais, même si c'était autorisé, jamais voulu poursuivre, parce que ça m'a modifié les sensations terriblement. Moi, je fais du sport pour les sensations. Et là, c'était complètement modifié. J'ai l'impression que les foulées sur mon 3000 mètres à la fin du protocole, j'avais l'impression que les jambes tournaient toutes seules, comme si je les maîtrisais plus. On devenait des machines un peu. Et on se sent plus humain, pour de vrai. D'un point de vue sportif et sensation, je ne vois pas l'intérêt. D'un point de vue financier, pour gagner une Coupe du Monde ou une médaille d'or, peut-être, mais pas pour les sensations du sportif, c'est évident.
Et d'après vous, d'après ce que les médecins vous ont expliqué, quels sont les risques à long terme de ces substances dopantes ?
Alors en vrai, moi je suis pas du tout spécialiste, mais le médecin qui nous suivait disait que, eh bien, c'est que effectivement le corps s'habitue, qu'on en a besoin de plus en plus, et puis après il y a des effets que les médecins pourront expliquer facilement. Les douleurs, c'est quand même une alerte du corps, quoi. À force de les masquer, c'est comme si on n'écoutait pas notre corps. Donc évidemment, après, les sportifs se blessent. Tous ces problèmes médicaux que les sportifs peuvent vivre, je pense qu'une partie d'entre eux sont liés au fait de masquer un certain nombre de douleurs, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas envie de m'y risquer, hein, ça c'est sûr.
Et donc si vous avez mené cette expérience avec 7 autres sportifs, c'était aussi dans le but de dénoncer la lutte contre le dopage qui ne fonctionne pas en France.
Oui, le vrai intérêt du dispositif, c'est pas de montrer qu'on gagne à se doper, parce que tout le monde le sait. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on est passé sous les contrôles, sous les radars, y compris les plus compliqués. C'était prise de sang, c'était évidemment urine, c'était cheveux. On a pris les modalités qui sont en cours aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Et on a été qualifié de non dopé. Mais tout simplement parce qu'on a sommé des microdoses. On n'a pas pris que de l'EPO. C'était très faible en EPO, mais il y avait des corticoïdes, une autotransfusion, l'hormone de croissance. Tout ça n'était pas détectable. Et pourtant, ça a fonctionné. L'effet que ça a eu sur moi avec ces microdoses, j'imagine pas avec des doses normales, quoi.
C'était donc le témoignage de Guillaume Antonietti, hein, marathonien. Alors on va reprendre les différents éléments. D'abord, je voudrais réagir sur le gain de temps quand même insensé sur 3 km. Donc il a gagné 25 secondes en prenant ses médicaments. Donc on voit l'impact direct quand même sur la performance, docteur, professeur Dean.
Oui, tout à fait. C'est indéniable qu'en plus ce protocole que je connais faisait appel quand même à des dopages modernes, à des dopages biologiques et à des dopages efficaces. qui ont un peu bousculé depuis 25 ans les performances, l'ensemble des performances.
Donc en résumé, quand même, on ne peut pas lutter contre un concurrent si on n'est pas dopé, professeur, docteur Laurent Usan.
Bah, clairement, on n'est pas sur une égalité des chances et on n'est pas que sur des différences liées à l'entraînement et à la volonté que le sportif aura. On aura bien évidemment des différences qui vont être induites par une aide extérieure qui va, on va dire, piper les dés.
Alors, le fait que ça masque, en fait, surtout les douleurs, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Du coup, il y a une question de on est comme un surhomme, quoi. On ressent plus son corps de la même façon.
Bah, en fait, vous pouvez majorer, en fait, vos doses d'entraînement. Vous pouvez encaisser des doses d'entraînement plus importantes. Et donc, bah, grâce à ça, entre guillemets, vous améliorez vos performances. Parce que plus je vais pouvoir m'entraîner, plus je vais pouvoir augmenter ma résistance à la douleur, puis je vais pouvoir aller sur des seuils de plus en plus élevés sur la performance. Et donc, bah, le concurrent qui n'en prenait pas, par exemple, dans cette course, que l'intervenant décrit, bah, très clairement, il n'est pas capable de s'astreindre aux mêmes doses d'entraînement et donc il sera moins performant. Parce qu'on est quand même sur des gains, les différences à ces niveaux-là se font quand même sur des choses assez infimes. Et donc, 25 secondes de gagné sur 3000 mètres, là, on dépasse l'infime et on passe sur quelqu'un qui va gagner sa course demain.
Et alors le fait qu'il soit passé sous le contrôle des radars avec ses micro-doses, donc qui ne sont pas détectables en fait, ça remet complètement en cause la lutte contre le dopage.
Ben là, en fait, si vous voulez, ça pose problème parce que deux des produits utilisés sont des produits qui posent problème au contrôle antidopage puisque ce sont des médicaments. Les hormones de croissance, et les EPO sont des médicaments de fabrication biotechnologique. C'est pas de la chimie. C'est-à-dire que c'est pas du contrôle toxicologique, comme pour les amphétamines ou les corticoïdes, par exemple. Et donc là, on est dans un dopage très moderne. Et à partir du moment où vous utilisez, effectivement, comme cela a été dit dans ce protocole, des microdoses, vous pouvez passer à travers les radars, comme actuellement l'un des plus gros problèmes qu'on a sur les EPO, de contrefaçon, qui ne sont pas nomenclaturés et qui sont fabriqués parce que le dopage est une niche de la contrefaçon médicamenteuse. Voilà.
Docteur Usan, vous voulez réagir ?
Oui, non, mais on est vraiment tout à fait sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a affaire à des produits qui se diffusent de plus en plus, qu'on trouve sur Internet et qu'on trouve sur d'autres façons. Et très clairement, les conséquences dont les sportifs ne se méfient pas du tout. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une volonté de gain de performance, mais ils n'ont pas du tout conscience de ce qui peut se passer derrière. Et ces complications-là, s'ils étaient au courant, pour la plupart, en tout cas au niveau amateur, ferait beaucoup plus attention.
Alors justement sur les risques ou autres, nous avons Délie Raphaël qui nous appelle de Bougy-Mailly en RDC et qui s'inquiète effectivement sur les effets. Bonjour Délie Raphaël, on vous écoute.
Bonjour Caroline, bonjour la RFI. Alors, oui, ma question, j'ai une préoccupation.
On est avec vous Délie Raphaël, allez-y.
Oui, je capte très bien. Oui, ma préoccupation est celle de savoir. Bon, je voulais savoir, beaucoup de joueurs prennent certains médicaments pour augmenter le nombre de globules rouges afin qu'ils soient très performants sur le terrain. Maintenant, ma question était celle de savoir quels sont les inconvénients qui peuvent arriver dans la consommation de ces médicaments.
Oui, donc effectivement, quels sont les risques qu'ils prennent et les effets négatifs sur le corps de ces joueurs. Merci beaucoup pour votre question, Délie Raphaël. Je pose la question. Laurent Usan, puisque vous allez bientôt nous quitter pour la dernière question.
Oui, alors bah, clairement, on sait qu'on a des effets cardiaques dangereux sur la prise de ce type de produit, des effets vasculaires. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est comme si vous augmentiez la coagulation du sang. Et donc le risque, c'est que vous bouchiez les tuyaux, les artères ou bien les veines, et donc qu'on puisse avoir des infarctus, qu'on puisse avoir des phlébites, c'est-à-dire des veines qui vont se boucher. Et donc le problème de l'infarctus, c'est qu'on risque de toute façon de faire un arrêt cardiaque ou de détruire une partie de son cœur. Les risques des phlébites, c'est de pouvoir boucher les veines et de pouvoir faire des embolies pulmonaires, c'est-à-dire que vous allez gêner l'apport au niveau des poumons. Et donc on risque d'avoir des vraies complications avec une mise en jeu du pronostic vital du sportif qui va se doper.
Et c'est ce qui s'est passé là. Récemment, on a eu des morts par AVC de jeunes joueurs de foot.
Alors, on peut pas mettre ça sur le compte du dopage, que clairement, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et habituellement, les morts subites chez des jeunes joueurs, on a, à mon avis, assez rarement affaire à du dopage. On a plutôt affaire à des maladies cardiaques génétiques qui peuvent occasionner de la vraie mort subite du sportif, malheureusement pas toujours diagnosticable.
Ah, vous pensez que c'est pas lié aux produits dopants
Vraisemblablement pas. On sait qu'on a un nombre de cas de mort subite du jeune sportif qui est globalement en France, par exemple, de 1000 à 1500 morts par an. Et donc on sait que dans un certain nombre de cas, on est vraiment sur des maladies cardiaques génétiques qui sont à l'origine de ce genre d'épisodes dramatiques.
Alors merci beaucoup, hein, docteur Laurent Usan, d'avoir été avec nous en direct donc depuis l'Institut Cœur Effort Santé à Paris où vous exercez. Je rappelle que vous êtes cardiologue du sport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Je vous laisse à votre travail. Merci.
Merci beaucoup.
Alors est-ce que le grand public est concerné justement? Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi pour améliorer ses performances sans tricher? On va continuer. On attend vos questions, vos témoignages au 33 1 84. 22 75 75. Le professeur Gérardine, vous restez avec nous. On va écouter Noire Lumière par Trésor et Nonku Perry. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez dans Priorité Santé, pas un Tour de France, un grand tournoi de tennis, une compétition d'athlétisme ou une coupe du monde de foot comme en ce moment, sans que planent les soupçons de dopage. Malgré les aveux, la multiplication des affaires, les cancers, les problèmes de santé, dopage, pourquoi on n'en sort pas? Où en est la lutte anti-dopage? Les contrôles sont-ils efficaces? Et le dopage, comment touche-t-il aussi le grand public et sous quelle forme? On en parle aujourd'hui avec le professeur Gérardine, médecin biologiste des hôpitaux et professeur associé en biotechnologie à l'École centrale de Paris. Vous êtes donc spécialiste spécialiste du dopage et vous allez sortir un livre qui s'appelle Le suivi biologique chez le sportif. Ça sortira le 18 août chez Elsevier Masson. Donc ce suivi biologique chez le sportif, c'est votre travail un peu au quotidien?
Oui, c'est une approche, si vous voulez, biomédicale de ce qu'on demande aux sportifs et de ce qui peut arriver évidemment aussi chez les sportifs amateurs. C'est-à-dire que la pratique sportive, notamment intense, impacte l'organisme. Elle peut l'impacter positivement, mais il peut y avoir des impacts négatifs. Et surtout, il y a un élément très très significatif, c'est que les paramètres biologiques, c'est-à-dire les tests qu'on peut faire pour Monsieur Tout-le-Monde, peuvent être modifiés sans qu'ils soient forcément synonyme de processus pathologique. Donc ça demande de bien interpréter les résultats.
Alors on parle de dopage effectivement depuis le début de l'émission. On va regarder, on va essayer de définir le terme précisément. Alors dans le DICO, moi je lis que le dopage concerne toutes les substances et procédés qui vont permettre au corps de fonctionner en dehors de ses aptitudes naturelles. Est-ce que c'est suffisant pour vous comme définition?
Ça, c'est la définition, on pourrait dire, scientifique. Alors, on pourrait rajouter, du point de vue médical, qu'il peut y avoir un aspect dangereux à l'utilisation de ces méthodes qui court-circuitent le système naturel. Et vis-à-vis de la définition dans le sport de haut niveau, en tout cas pour ce qui est l'Agence mondiale antidopage, c'est effectivement une liste réglementaire d'interdiction de molécules et de méthodes, qu'elles soient d'ailleurs contrôlables ou pas contrôlables. C'est toute une partie du problème.
On va essayer de revenir sur quelques produits utilisés, par exemple, qui sont interdits, lesquels hein?
Ben vous avez tous les stimulants, au sens large du terme, les stimulants cardiaques, stimulants respiratoires, comme par exemple les anti-asthmatiques, qui parfois sont quand même un peu autorisés avec ce qu'on appelle autorisation d'utilisation temporaire chez le sportif qui est asthmatique. Et c'est tout le débat actuellement autour du coureur britannique Chris Froome, qui a vu un contrôle antidopage un peu suspect lors du Tour d'Espagne l'année dernière.
Donc c'est quoi, on prend de la cortisone
Non, ce sont des anti-asthmatiques. Par exemple, une molécule qui s'appelle le salbutamol, que n'importe quel asthmatique peut consommer. Le sportif, à partir du moment où il a déclaré qu'il était asthmatique, sous réserve évidemment d'une commission d'expertise, est autorisé à utiliser, mais avec une concentration, limite. Et c'est le problème de ce dossier pour ce cycliste qui, lui, était deux fois la concentration maximale. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit mis en cause?
Vous avez toutes les hormones stéroïdes, par exemple les corticoïdes qui touchent à l'énergie, les stéroïdes anabolisants qui sont androgéniques, qui permettent une amélioration musculaire, tout ce qui est biotechnologique comme les EPO, qui vont vous donner beaucoup plus de globules rouges et donc améliorer l'énergétique, ou les hormones de croissance qui aujourd'hui remplacent, parce que difficilement contrôlables, mais également difficiles à utiliser, ça remplace les hormones stéroïdes qui, elles, sont facilement contrôlables.
Alors tout ça, c'est ces cocktails donc qui sont savamment pris par les sportifs. Mais est-ce que c'est eux? C'est pas eux tout seuls qui se servent de tout ça. Derrière, il y a des médecins.
Tout à fait, bien entendu. Ça, c'est très clair que aujourd'hui, vu le niveau de compétence dans le haut niveau, à la fois pour être efficace de manière ciblée et en même temps échapper aux contrôles qui sont très sophistiqués. On est dans un dopage de préparation et plus du tout dans un dopage de stimulation pendant la compétition. C'est pour ça que vous verrez qu'il n'y aura pas du tout beaucoup de positifs à la Coupe du Monde de football. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dopé, ça veut dire qu'en préparation ou en récupération, ils peuvent avoir été très très bien encadrés. Et là, effectivement, il faut de grandes compétences biomédicales. Nous sommes d'accord.
Alors, on va tout de suite partir à Yaoundé, au Cameroun, puisque nous avons rendez-vous avec le docteur Évariste Djomo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes administrateur de ORAD Zone 4, c'est un terme très technique. Enfin, vous travaillez au sein de l'Agence mondiale antidopage, c'est ça, pour l'Afrique.
Oui, effectivement, je travaille pour l'organisation régionale antidopage, la Zone 4 en Afrique. Et je suis basé au Cameroun, donc depuis beaucoup d'années, je suis comme administrateur de cette organisation.
Alors, quel regard vous avez sur la Coupe du Monde de foot là qui a commencé?
Bien, c'est le regard de tous les sportifs. Déjà, il y a beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme, tant au niveau des acteurs sur le terrain que les spectateurs et même les politiques et beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est un grand moment dans le monde entier où tout le monde cherche à s'émouvoir autour du football.
Alors, il y a cette émotion, mais vous, vous travaillez quand même pour l'Agence mondiale d'antidopage. Donc, qu'est-ce que vous regardez différemment, on va dire?
Bien, nous, il y a quelques éléments que nous pouvons regarder, notamment le comportement des joueurs, l'agressivité et les efforts fournis, les façons de se surpasser. Bon, mais nous ne faisons pas de procès d'intention. À ce niveau, ce n'est pas les tests que l'on peut déterminer effectivement s'il y a quelques cas de dopé ou pas.
Ça peut se voir comme ça à l'œil nu pendant le match, professeur Dean?
Ah ben parfois, on peut être interpellé dans certaines disciplines sportives par des comportements physico-physiologiques qui paraissent au-delà de ce qui pourrait être acceptable, quoi, si vous voulez.
Quand vous pouvez repérer quelque chose d'extraordinaire.
Enfin, oui, qui paraît surprenant. Mmh. Alors après, ça ne veut pas dire que pour
autant... Par exemple ?
Ben, je ne sais pas, par exemple, sur des disciplines qu'on pourrait qualifier de mathématiques comme l'athlétisme, on a vu sur les dernières compétitions depuis quelques années des chamboulements de records, notamment en endurance, qui sont interpellants, quoi. Et à partir de là, si on a un environnement de contrôle qui a pas été complètement optimal, évidemment la suspicion est créée, malheureusement.
Quels sont vos principaux problèmes, vous, en matière de dopage en Afrique, Évariste Djomo?
Oui, les principaux problèmes parfois sont d'ordre administratif parce qu'il faudrait que les gouvernements adhèrent à cette lutte. Nous avons besoin de leur soutien, surtout sur le plan administratif. Et des problèmes encore parfois de localisation parce que les sportifs sont essentiellement mobiles. C'est pas toujours facile de les retrouver lorsqu'un contrôle hors compétition ou inopiné est programmé.
Ah, ils échappent, vous voulez dire, aux mailles du filet?
C'est un problème d'information souvent parce que le sportif n'est pas toujours bien introduit dans tout ce qu'il y a comme procédure et il peut arriver quelquefois que nous souhaitons retrouver un sportif à un lieu bien indiqué et au moment où nous y arrivons, ils ne sont pas en place. Donc, c'est pas forcément... C'est parfois qu'ils ne maîtrisent pas toujours les comportements qui doivent... la conduite qu'ils doivent tenir lorsque... ils sont sportifs de haut niveau, donc c'est quelques problèmes tant sur le plan administratif que sur le plan pratique là que nous rencontrons très souvent.
Et le gros dossier qui vous occupe en ce moment, Évariste Djomo?
Oui, c'est surtout au niveau de la politique, l'adhésion des pays à la cause. Des conventions sont signées, des pays ont adhéré, mais sur le champ pratique, ce n'est pas toujours les attentes que nous n'avons pas toujours une réponse directe aux attentes que nous voulons. Donc ça nous préoccupe et pour le moment nous travaillons pour que tous les pays de la sous-région, surtout Afrique centrale, adhèrent absolument à la lutte contre le dopage dans le sport.
Et qu'est-ce qui fait qu'ils freinent des quatre fers, comme on dit? C'est certains États, vous pouvez les nommer?
Ah bon, c'est surtout un problème général parce que des 8 pays de la sous-région, de la zone 4, dont je suis l'administrateur, il y a beaucoup de... L'administration n'est pas toujours continue. Il y a des remaniements ministériels qui peuvent toujours retarder le processus et chaque fois, il faut recommencer pour informer le nouveau venu, l'amener à accepter de contribuer à l'effort que nous faisons à la lutte pour le dopage.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un besoin d'éducation, en fait, à l'antidopage en Afrique?
Oui. Oui, ce besoin, je dis, est tant au niveau des politiques qu'au niveau des sportifs. Parce que nous avons, avec l'aide de l'UNESCO, nous avons monté de nombreux projets sur la sensibilisation et même l'éducation au niveau des sportifs. Et... d'une génération de sportifs à une autre, il faut recommencer. Bon, très souvent, c'est pas toujours effectif d'évaluer. Bon, beaucoup arrêtent leur carrière avant le temps et n'assurent pas le relais auprès de leurs jeunes compatriotes.
Il y a beaucoup d'automédication aussi chez vous?
Oui, ça aussi, beaucoup d'automédication. Et surtout en ce qui concerne les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, il y a encore un problème d'information. Donc le sportif qui ne va pas toujours vers un médecin agréé pour requérir l'ordonnance adéquate. Et c'est plus facile d'aller dans la rue parfois prendre un médicament. Et parfois sur le conseil même des proches, parce qu'il y a cette influence là aussi. Qui ne sont pas toujours des spécialistes en la matière.
Professeur Gérardine, vous voulez réagir?
Mais je trouve que mon collègue expose tout à fait bien la situation qui existe, en tout cas pour la partie où il travaille en Afrique. Quoi. Il y a véritablement une nécessité d'information, de standardisation, et c'est le rôle de l'Agence mondiale antidopage à travers ces organisations régionales. Et effectivement, sur les autorisations d'utilisation temporaire qu'il a évoquées, effectivement, là, il y a un vrai problème d'information, puisque, en fait, il s'agit de pouvoir consommer un médicament parce qu'on a un problème de santé, mais qui peut être considéré comme produit dopant. Donc, c'est un problème de définition. Et évidemment, c'est très, très important de savoir si les individus concernés sont dans le cadre autorisé. Quoi.
Un dernier message que vous avez envie de faire passer, Évariste Djomo?
Oui, justement, amener les gouvernants et beaucoup plus les sportifs à s'informer davantage sur le dopage, parce que je suis la lutte contre le dopage, parce que désormais c'est une réalité dans le milieu sportif, dans le mouvement sportif. Donc, pour éviter ce problème de dopage qui, en réalité, même c'est un problème de santé publique déjà, donc il est souhaitable que avec l'aide de tout le monde, qu'on puisse informer la communauté sportive.
Oui, ne pas fermer les yeux, ne pas faire l'autruche, savoir maintenant le dopage est répandu dans les milieux sportifs. Merci beaucoup, hein, Évariste Djomo, pour avoir été en direct avec nous depuis Yaoundé, donc au Cameroun. Je rappelle que vous êtes administrateur de ORAD, donc Zone 4, c'est l'organisation régionale antidopage d'Afrique, dans le cadre du programme de développement de l'Agence mondiale antidopage. Merci beaucoup, Évariste, très bonne journée à vous.
Merci beaucoup et bonne émission.
Merci.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Gérardine, j'ai envie de dire, au fond, tout le monde s'accommode du dopage.
Globalement, oui, parce que, enfin, il faut pas rêver, on vit dans des sociétés quand même qui sont un petit peu dopées quand même. À partir du moment où vous avez à peu près, je crois en France, 5 ou 6 millions de personnes qui prennent quelque chose pour dormir, et que la moitié de ces 5 ou 6 millions qui le lendemain matin sont un peu vasouilleux, prennent quelque chose pour avoir la pêche au travail, par rapport éventuellement à la pression compétitive économique, on est dans une situation de béquille pharmaceutique. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on peut définir la réalité.
Et alors comment justement on peut, nous, améliorer nos performances sportives, je dirais, sans tricher, pour effectivement être un peu, se sentir un peu plus en forme, pousser un peu plus loin, je dirais, gentiment, sans tricher.
Gentiment, bon, je pense que déjà, il y a effectivement la pratique sportive, le rythme de vie, ça c'est clair, mais ça c'est des choses simples. Après, si vous voulez, au-delà de la pratique d'entraînement, il y a l'alimentation, ça c'est très très clair. Quand on fait du sport, il faut avoir une alimentation qui est réfléchie, l'hydratation. Et il est évident que par rapport à ce qu'offrent les facilités de nos sociétés évoluées, beaucoup de sportifs utilisent des compléments alimentaires, par exemple. Ces compléments alimentaires peuvent avoir un intérêt à partir du moment où ils sont utilisés de manière judicieuse par rapport aux objectifs. Mais il faut savoir que pour Monsieur Tout-le-Monde, les compléments alimentaires, c'est aussi une porte d'introduction masquée du dopage de Monsieur Tout-le-Monde, parce que vous avez des gens qui ont bien compris le ciblage économique et qui, dans ces compléments alimentaires, vont mettre des vieux produits dopants comme les stimulants et les stéroïdes. Et effectivement, ces compléments alimentaires vont être très efficaces. Mais là, les gens qui utilisent ces compléments sont en situation de dopage. Donc, si vous voulez, on est dans une forme d'ambiguïté quand même par rapport à ces approches qui sont facilitatrices.
Et les éléments comme le café, vous le disiez en début d'émission, vous avez votre petit café, voilà. Bon, ça joue vraiment.
La caféine est un produit efficace. Elle a été considérée comme un produit dopant sur la liste interdite jusqu'en 2004. Et comme évidemment c'est un produit de forte consommation, il faut savoir que la caféine est efficace sur le plan du geste sportif, à la fois par une stimulation au niveau cérébral vis-à-vis de l'attention et de la résistance au sommeil, mais également du point de vue énergétique dans les disciplines d'endurance. Alors, il faut savoir utiliser intelligemment la caféine et pas uniquement en buvant du café. Mmh. Vous avez des compléments alimentaires à base de caféine qui sont configurés pour le sport.
Et alors, il y a Christian de Cotonou qui pose cette question. Alors, je vous la pose. Hein. Peut-on qualifier le jus de citron comme un dopant dans l'arène sportive?
Non, franchement, là, je pense qu'on peut rassurer notre auditeur. Là, a priori, il n'y a aucune dangerosité, si vous voulez, du point de vue de l'organisme au sens général du dépassement. Et le problème, c'est que je ne suis pas persuadé que ce soit réellement quelque chose d'efficace pour la performance non plus. Quoi.
Et d'une manière générale, quand même, tous ces produits qui améliorent la performance, ces produits dopants, bon, on l'a vu, ça nuit à la santé. Il y a aussi une autre difficulté, c'est qu'on devient dépendant aussi.
Alors là, il y a une catégorisation dans les produits, si vous voulez. Tous les produits qui vont être stimulants de la performance, et notamment ceux qui viennent des molécules amphétaminiques, qui sont des molécules chimiques qui extrait des anciennes drogues l'aspect stimulant au détriment de l'aspect planant, pour dire très clairement les choses. Là, mais manifestement, on peut devenir addict aux amphétamines. Et d'ailleurs, une partie de ces amphétamines circule sous le manteau comme des drogues. Hein, ça, c'est très très clair. Et en cocktail, souvent. Hein. Mm-hmm. Par contre, il n'y a pas d'addiction véritable, par exemple, vis-à-vis d'une molécule comme l'EPO, le dopage sanguin. Ce qui est psychologiquement problématique, c'est la dépendance par rapport, et c'était très très bien dit dans l'interview tout à l'heure, c'est la dépendance par rapport à la capacité de faire un effort sans avoir mal. À partir du moment où vous augmentez vos performances, vous pouvez mieux vous entraîner, donc dépasser les limites sans avoir mal. Mais c'est pas une addiction au sens littéral du terme.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus supporter, voilà. Enfin, d'avoir mal plus tôt et de.
Voilà,
de...
Exactement. Ouais. C'est psychologique.
Ouais.
Le produit est efficace sur le plan physiologique, mais il ne vous rend pas addict. Ce qui n'est pas du tout le cas des amphétamines. Ça, c'est très clair. Là, vous avez des addictions aux amphétamines, et l'un des exemples les plus malencontreux de ce type de dopage, c'est le décès du cycliste Pantani, qui, à partir des amphétamines, est allé aux vraies drogues, c'est-à-dire la cocaïne et les drogues dures, et il est décédé d'une surdose de mélange amphétaminique et cocaïne.
Alors, le dernier message, Gérardine, avant notre chronique nutrition à la fin, que vous avez envie de dire en ces temps de Coupe du Monde?
Pense qu'il faut être lucide, hein. On est dans des environnements de dépassement pour le très haut niveau, parce que ça relève de l'économie du sport, et le corps est la mine de la performance, donc de l'économie du sport. Donc il faut quand même avoir un regard lucide et pas uniquement enthousiaste. Ça, c'est pour... Et puis surtout, aujourd'hui, via Internet, vous pouvez acheter quasiment tous ces médicaments de dépassement qui sont contrefaits, même certains médicaments high-tech comme les EPO. Et donc là, il faut être très très vigilant sur les compléments alimentaires achetés sur Internet.
Merci beaucoup, hein, professeur Gérardine. Je rappelle que vous êtes médecin biologiste des hôpitaux et professeur associé en biotechnologie à l'École centrale de Paris, spécialiste du dopage avec un livre à venir. Ce sera mi-août sur le suivi biologique chez le sportif aux éditions Elsevier Masson.
Priorité santé sur RFI.
Un jingle entraînant, hein, pour finir avec la chronique nutrition, c'est lundi. Bonjour Stéphane Besançon.
Bonjour Sandrine.
Alors vous allez nous aider aujourd'hui à mieux comprendre le métabolisme et les apports énergétiques. Alors pour commencer, qu'est-ce que le métabolisme?
Alors, la définition scientifique du métabolisme, c'est l'ensemble des processus de transformation chimique et biologique qui se déroulent dans notre organisme. Alors, dans un langage plus vulgarisé, en fait, le métabolisme de base, c'est donc la quantité d'énergie que nos cellules et nos tissus doivent recevoir pour avoir un fonctionnement minimum, mais c'est aussi la quantité d'énergie qui vont être nécessaires au maintien de toutes nos fonctions physiologiques vitales, comme par exemple le maintien de la température corporelle, la respiration ou encore la circulation du sang. Alors pour ceci, on mesure après une période de jeûne minimum de 12 heures au repos, dans une pièce où la température est entre 18 et 25 degrés, la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone par notre corps.
Et alors quel est le lien entre notre métabolisme et nos besoins en calories ?
Alors le métabolisme de base, c'est une composante de nos dépenses énergétiques, avec l'énergie nécessaire pour maintenir notre température corporelle, mais aussi l'ensemble des dépenses qui sont liées à notre activité physique. Il faut rappeler que l'Organisation mondiale de la santé définit qu'un homme adulte aura besoin en moyenne de 2400 kcal par jour avec une activité physique faible, 3050 avec une activité physique moyenne et 3700 pour une activité physique forte. Il faut rappeler aussi que pour une femme adulte, ses besoins sont un peu plus faibles avec 1900 kcal par jour avec une activité physique faible, 2400 avec une activité physique moyenne et 3000 avec une activité physique forte. Et ces dépenses énergétiques vont donc dépendre du sexe, mais aussi de l'âge. Car plus on va prendre de l'âge, plus nos besoins énergétiques vont baisser. Et enfin, il est aussi important de noter qu'à certaines périodes de la vie, les besoins énergétiques sont plus grands. Par exemple, lors des phases de croissance, durant la grossesse ou l'allaitement. On voit donc bien ici toute l'importance de faire évoluer au cours du temps ce qu'on appelle notre balance énergétique.
Alors, vous pouvez nous rappeler ce qu'est la balance énergétique et quelle est son importance ?
Alors, elle se définit par l'équilibre entre les apports, c'est-à-dire tout ce qu'on va manger, nos apports énergétiques, ce qu'on va ingérer et nos dépenses énergétiques qu'on vient de définir précédemment. Alors, elle est très importante car elle va avoir un impact direct sur notre état de santé. En effet, si cette balance est déséquilibrée et que les apports sont supérieurs aux dépenses de manière chronique, des maladies qu'on appelle aujourd'hui les maladies métaboliques comme le diabète, le surpoids, l'obésité, la perturbation des lipides sanguins vont se développer dans ce temps. Donc il est très important d'adopter sa balance énergétique au cours du temps en fonction de l'évolution de ses besoins et de ses dépenses, tout en se rappelant toujours qu'on n'est pas tous égaux face à notre métabolisme. On a par exemple des individus minces et de grande taille qui vont avoir un métabolisme plus élevé. La composition corporelle aussi joue un rôle très important. Si on a plus de masse musculaire, on a un métabolisme plus élevé. Plus de masse grasse, on a un métabolisme plus bas et moins de besoins. Donc le changement de la composition corporelle sera aussi très important à prendre en compte.
Et alors pour terminer, donc qu'est-ce que vous nous recommandez pour maintenir au mieux cette balance énergétique ?
Alors comme souvent, il faut déjà écouter, observer son corps, mais aussi son environnement. Si on voit que la balance énergétique se déséquilibre et la conséquence est que l'on prend du poids, il faut commencer par adopter une activité physique modérée et observer ce qui se passe. L'idéal étant d'allier une activité physique d'endurance pour dépenser des calories et un renforcement musculaire pour augmenter progressivement la masse musculaire. Si la pratique d'une activité physique ne suffit pas, alors il faudra jouer sur l'alimentation avec les mesures très classiques qu'on répète très souvent lors de cette chronique, réduire la quantité globale de ce qui est mangé, réduire les apports en graisse, les apports en aliments ultra transformés, ça c'est très important, tout en augmentant la consommation de fruits et légumes. Et enfin, il faut, ça c'est très très important, tenir compte de l'évolution au cours du temps. On sait aujourd'hui que le métabolisme de base diminue de 2 à 3% par décennie et que dans le même temps, la sédentarité augmente avec l'âge. Il faut donc faire évoluer et adapter son alimentation et son activité physique au cours du temps pour maintenir sa balance énergétique et éviter de prendre du poids dans le temps.
Merci Stéphane Besançon. Merci à toute l'équipe et demain on se retrouve autour de la drépanocytose.